Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Éteindre ou allumer sa radio, sa télévision, arrêter de surfer sur les réseaux sociaux en quête des dernières infos, qui ne s'est pas posé la question particulièrement en ces temps anxiogènes? Il est une question importante dans l'actualité, celle de la hiérarchie de l'information, comme on dit. Hiérarchie qui a tendance à voler en éclats dès lors que l'on pioche ça et là des informations, une hiérarchie rendue encore plus difficile à l'heure de l'infotainment, comme on dit, de l'information divertissement en français. Alors pour faire notre part, nous avons fait remonter ce matin quelques sujets de bas de page, car l'information a ses exigences en effet, puisqu'elle n'est rien moins que notre histoire. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre rendez-vous d'actualité. Pour ce mois-ci, autour du plateau, fidèle au rendez-vous, Daniel Cabanis, toujours professeur émérite d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Marie-Christine Monoyer, professeure émérite de sciences de gestion et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et Vincent Grégoire Delory, doyen de la Faculté libre des lettres et des sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour cher Emmanuel, bonjour à tous.
Merci d'être fidèle au rendez-vous. Donc on a sorti donc des sujets de bas de page, en tout cas c'est surtout peut-être le cas du premier. On va parler donc de la conférence sur l'avenir de l'Europe, probablement que pas grand monde en a entendu parler aujourd'hui, qui va être lancée en grande pompe normalement le 9 mai prochain. On parlera des états généraux de la laïcité et puis on fera une dernière partie avec quelques sujets libres que vous m'avez suggérés. Premier sujet, donc il s'agit donc de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vais essayer de le présenter à gros traits, et puis après on va partir pour la discussion. C'est une espèce de grand brainstorming, on va dire, sur ce qu'est l'Europe, qui est lancée, une grande consultation citoyenne. On peut voir, alors je vous la décris, sur le Parlement européen, une grande affiche avec marqué « Next Generation EU ». Ça dit bien l'enjeu. Elle est lancée donc à l'échelle, bien sûr, des 27 États, où toute la société civile est invitée à participer via une plateforme qui, elle, a été lancée le 19 avril dernier. Plein de choses derrière ça. Allez, Vincent, honneur aux messieurs cette fois. Vincent Grégoire Delory, aviez-vous entendu parler de cette conférence sur l'avenir de l'Europe ?
Eh bien, cher Emmanuel, avant que vous nous proposiez le sujet, je dirais évidemment non. Enfin, quand je dis évidemment, c'est bien dommage, puisque je suis allé, comme d'autres, sur le site pour voir un petit peu comment ça se passait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses tout à fait intéressantes. Puis déjà, bon, il y a toute une introduction de la part des personnes qui l'ont voulu. Et en particulier, on peut écouter David Sassoli sur le site de européen, qui parle évidemment de changer, hein, sans tabou, disait-il, changer, de penser les choses à toutes les échelles, en transparence, et réfléchir sur des sujets extrêmement vastes et extrêmement intéressants, en essayant de retrouver une sorte de substratum, on va dire, populaire, vers cette Europe-là. Donc il y a énormément de sujets qui sont proposés, comme la gouvernance, l'écologie, les migrations, enfin énormément de choses, et qui peuvent être tout à fait intéressantes, parce que d'une part, ça le propose à chacun, eh bien, ben, pourquoi pas de donner son avis. Donc vous cliquez, donc il y a des systèmes pour donner son avis. On peut aussi participer à des événements, ou les créer soi-même, hein, me semble-t-il. Et enfin, on peut aussi, évidemment, apprendre, s'inscrire pour des conférences, des choses comme ça. Et donc ça a l'air vraiment tout à fait intéressant et tout à fait vertueux, en tout cas, par les temps qui courent.
Alors on peut dire, cocorico, que l'idée viendrait de France, qu'elle aurait été lancée par Emmanuel Macron donc en mars 2019, si je ne me trompe pas. La présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, a annoncé donc qu'il s'agissait de donner la parole évidemment aux citoyens pour limiter la bulle de Bruxelles et faire en sorte qu'une majorité silencieuse puisse s'exprimer. C'est donc une grande ambition. Elle a déjà un petit peu du plomb dans l'aile, puisque bon, tout le monde n'est pas forcément partant. J'ai lu une douzaine de gouvernements du nord et de l'est du continent ont fait savoir qu'ils souhaitaient s'en tenir au statu quo institutionnel comme une manière un petit peu de pas trop pousser trop loin. Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Est-ce que ça va être un grand machin européen, ou est-ce que là on peut avoir quelque espoir?
Bon, comme toujours, on va vers à moitié vide, vers à moitié plein. Moi, je vais opter peut-être naïvement pour le à moitié plein, parce que dans la démarche initiée par Emmanuel Macron, rapidement soutenu par la chancelière Angela Merkel. Il y a une stratégie, on peut dire, à la mode, hein, qui sont, ça s'appelle états généraux, ça s'appelle conférence, enfin tout ce qu'on voudra, mais qui procède d'un phénomène unique, qui est la démocratie participative. Or, cette fois-ci, ce qui m'a semblé intéressant, sans jouer sur les mots, mais c'est qu'on passe à la vitesse supérieure puisqu'on parle déjà d'une forme de démocratie délibérative. Alors, comment ça va exactement ?
La nuance, quelle est la nuance ?
Participatif, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on participe à des manifestations, des événements de manière très libre sur tous les sujets. Bon, c'est mieux que de ne pas participer, on est bien d'accord. Mais quand c'est délibératif, ça signifie que l'on peut avoir les modalités, donc ne crions pas Alléluia trop vite, mais on peut participer à la prise de décision. Donc ça peut d'une part encourager la prise de conscience, qui peut-être existe souvent déjà, mais surtout le fait d'aller de l'avant. Parce que dans notre pays, on est les champions quand même de la critique, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait pas, ce qui fait que, comme ça, souvent, on n'avance pas très bien. Au niveau européen, c'est aussi souvent le cas. On a pu reprocher avec raison à l'Europe d'être peu transparent, d'être un machin d'initié, technicien, voire technocrate, ce qui est là une insulte.
Et Daniel Cavalli, juste pour... où est-ce que vous avez lu cette information qu'elle pourrait être plus que consultative ? Moi, j'ai lu au contraire que... Son rôle décisionnaire restait sujet à interrogation.
Oui, mais il n'est pas nié.
Il y a une gouvernance particulière.
Il y a des choses qui sont intéressantes avec des regroupements de personnes. Oui. Excusez-moi.
Oui, alors ce que dit Marie-Christine est tout à fait...
C'est-à-dire consultation, délibération, mais c'est pas forcément que ça sera...
Mais peut-être pas sous forme de décision, sous forme d'un vote, comme dans un parlement ou un référendum ou Dieu sait quoi. Mais des projets qui seront discutés et sur lesquels il y aura des votes intérieurs dans les instances qui seront organisées, ce qui aura un réel pouvoir de pression sur les institutions. Voilà. Quand on peut dire que dans X pays, on s'est orienté vers ça ou ça, ou qu'on refuse ça ou ça, c'est un indice. Et les 12 risquent de se faire piéger par leur négativisme, parce qu'ils vont être doublés par les autres, qui en population sont beaucoup plus nombreux.
Alors le Parlement européen et la Commission ont commandé un sondage auprès de près de 30 000 Européens déjà, qui laisse entendre, qui a été publié donc le 9 mars dernier, sondage Eurobaromètre, pour faire honneur à l'Institut de sondage, qui laisse entendre que 51% des Européens consultés voudraient personnellement s'impliquer dans ce processus, et puis que les sujets qui les intéressent seraient en premier la santé, le changement climatique, le terrorisme, et puis les points d'attention, excusez-moi, je ne veux pas faire une introduction trop longue, Marie-Christine Monnoyer, je vous laisse la parole. Ils souhaiteraient arriver à un niveau de vie comparable et qu'il y ait plus de solidarité entre les États membres. Marie-Christine Monnoyer.
Moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est d'abord la diversité des sujets, mais aussi qui peuvent être abordés, et en particulier des sujets qui ne sont pour l'instant encore que moyennement européens, par exemple la question de la santé, puisqu'il n'y a pas d'Europe véritablement de la santé. Bien entendu, le premier des sujets, c'est développement durable et climat, et donc là, on comprend bien qu'il y a un appel à tous ceux qui ont envie, et en particulier les jeunes. On insiste beaucoup sur les jeunes, et est-ce qu'ils vont participer ou pas ? C'est une vraie question. Il se trouve, et je racontais ça juste avant l'émission, j'avais trois élèves en terminale tout à l'heure à la maison, et je leur ai posé la question de savoir s'ils étaient au courant. Bon, ils n'étaient pas au courant, ça ne nous étonnera pas du tout autour de cette table.
La campagne n'est pas encore lancée d'une
certaine
manière. Donc,
mais
elle va durer un an d'ailleurs.
Il y en a une qui préparait Sciences Po, qui m'a dit « Mais c'est où ça ? Où est-ce que je peux aller regarder ?» Parce que pour la future élève de Sciences Po, peut-être, eh bien, c'était exactement le type de thème et le type de rencontre qu'elle souhaitait. En plus, puis-je dire que j'ai déjà envoyé un petit mot à notre cher recteur en lui disant ça peut intéresser.
Recteur de l'Institut catholique de Toulouse.
Voilà, ça peut intéresser des licences pour la prochaine rentrée universitaire, en sachant maintenant que des événements peuvent être organisés, et donc pour nous qui sommes les enseignants de ces institutions, eh bien nous avons sans doute un rôle pour faire participer la jeune génération qui a envie de débattre d'un certain nombre de points.
Alors, envie de débattre, je voulais juste, pour finir, m'arrêter sur ce point, puisqu'on pouvait lire aussi que, semble-t-il, l'enjeu pour les institutions, enfin pour nos dirigeants européens, c'était de faire en sorte de crever l'abcès de nos malentendus, de défaire les nœuds de nos divisions qui font trop souvent désespérer de l'Europe. C'est-à-dire qu'on imagine que ça peut être le lieu de vrais débats. Il ne va pas y avoir que les europhiles qui participent. Vincent Grégoire de
Lange. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, l'ambition de M. le Président Macron là-dessus est extrêmement claire. Dans la lettre qu'il envoie aux citoyens d'Europe, il parle carrément d'une renaissance avec un grand R, renaissance européenne, et sur la question aussi des valeurs. Essayer de reprendre, de construire et de reprendre une dynamique de réflexion sur les valeurs de l'Europe.
Donc ça va peut-être chauffer sur la plateforme alors.
Mais ça peut être intéressant. Il parle par exemple, il dit le respect de l'individu est le fondement de notre civilisation de dignité. Ça va loin. Le respect de l'individu est le fondement de notre civilisation de dignité. On va revenir peut-être sur la question des racines chrétiennes de l'Europe, des choses comme ça. Peut-être qu'on va y revenir de manière différente par rapport à ce qui se passait jusqu'en 2004. Mais je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui fonde les valeurs de l'Europe ? Qu'est-ce qui nous donne envie ? Envie de se sentir européen, qu'est-ce qui nous donne envie, au-delà de ce marché commun, de se saisir de cette question de l'Europe. Et là, je pense qu'effectivement, il y a énormément de choses. J'engage nos auditeurs à lire justement ce document-là qui est publié sur le site de Commission européenne de M. Macron, où justement l'ambition qui est donnée à ce type de réflexion est très, très, très importante, très haute.
Daniel Cabenisso, Marie-Christine Mollier, oui. Je me permets de reposer ma question, mais à l'Europe où il y a beaucoup aussi d'europhobes, il faut que la condition sine qua non pour que ça marche, c'est qu'il n'y ait pas que les europhiles qui participent.
C'est sûr, mais il y a un des points qui nous a tous forcément impressionnés quand on est allé sur le site, c'est l'histoire des 27 langues. Et quand on clique un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a déjà des événements. Il y en avait hier, il y en avait aujourd'hui, il y en aura demain. Ils sont annoncés en français, en russe, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol. Et donc, c'est même une façon pour améliorer son niveau linguistique.
C'est pas ma question, si je peux me permettre. Hein.
C'est ma réponse.
Alors, Daniel Cabanis, la vôtre, quelle est-elle sur ma question ?
Alors, moi, ce qui me paraît...
Débattre de l'Europe avec un tiers ou la moitié de l'Europe qui n'y participe pas, ça ne résoudra pas...
Bien entendu, on a toujours le risque de l'abstention, abstention par manque d'intérêt, abstention par bouderie organisée. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si ça démarre bien, avec un réel enthousiasme, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les 12 un peu Neinsager actuels, ils vont être... Ça veut dire les gens qui disent toujours non en allemand.
Les 12 gouvernements donc, se sont prononcés.
Voilà. Ils peuvent être amenés à réfléchir parce que ces gouvernements ne sont pas nécessairement représentatifs de toute leur population. Ce qui fait qu'il y aura nécessairement débat chez eux. Certains ne bougeront pas. On ne voit pas trop M. Orban changer complètement d'avis. Le président polonais... non plus, c'est des gens qui sont bloqués réac et tant pis. Mais il y en a suffisamment d'autres qui sont susceptibles, en tout cas, d'amorcer une discussion. Parce que les europhiles n'ont pas nécessairement raison sur tout. Une partie des réactions des europhobes sont absolument justifiées. Donc il faut changer ce qui crée cette europhobie.
Je finirai en citant la citation que j'avais donnée tout à l'heure. La conférence doit ainsi crever l'abcès de nos malentendus, défaire à main les nœuds de nos divisions qui font trop souvent désespérer de l'Europe. C'est de Pascal Lamy, donc, qui a publié dans le Figaro Vox une tribune avec Enrico Letta, qui est président de l'Institut Jacques Delors. Il ajoute aussi, c'est l'occasion d'une prise de hauteur collective et nécessaire, ajoutant également, depuis l'échec de la Constitution européenne en 2005, 15 ans se sont écoulés sans qu'aucune réflexion globale n'ait été menée sur l'avenir. La pandémie n'a fait qu'accentuer cette nécessité. Bref, à suivre, on en reparlera. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler des états généraux de la laïcité. Cette fois, c'est en France, qui ont été lancés récemment. C'était le 20 avril dernier. Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission mensuelle d'actualité de Vivante Église autour du plateau Daniel Cabanis, pour ceux qui nous rejoindraient, professeur émérite d'histoire du droit à l'université Toulousain Capitole, Marie-Christine Monnoyer, entre autres titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines à l'université catholique aussi de Toulouse. Deuxième sujet, c'est donc les états généraux de la laïcité. États généraux de la laïcité donc, qui ont été lancés le 20 avril dernier par Marlène Schiappa, qui est donc ministre déléguée à la citoyenneté. Le propos cette fois, c'est pendant 3 mois de parler laïcité, de débattre sur ce sujet et d'écouter tout le monde à entendre donc la... La ministre déléguée, ça se veut être un débat large et on y reviendra. Le coup de gong de ce débat large a déjà été donné lors de la conférence de lancement. Là, beaucoup de critiques. La première, c'est que ça vient alors que le projet de loi sur les séparatismes, c'est comme ça qu'on appelle donc de manière un peu rapide un projet de loi au nom plus complexe, le projet de loi confortant le respect des principes de la République, n'est pas terminé. Bref, certains crient au coup de bluff ou de communication, trouvent que c'est malvenu. Daniel Cabanis, quel est votre sentiment? Daniel Cabanis qui se tient les mains jointes. Alors je ne sais pas si c'est un signe de votre réponse.
Non, pas du tout. Ce lancement est en soi intéressant parce que la question de la laïcité est tellement sous-tend tellement d'activités, de réalités dans notre pays qu'on ne peut pas l'escamoter. Mais en même temps, au risque de peut-être choquer certains de nos auditeurs, je trouve qu'elle est parfois trop présente parce qu'on brandit le grand drapeau, l'étendard de la laïcité, en fait, sans aborder les questions de fond qui sont derrière. Parce que jusqu'à nouvel ordre, il me semble que nous n'avons pas réussi à avoir une définition commune de la laïcité. Donc, on ne sait pas sur quoi exactement on est d'accord ou pas d'accord. Donc là, on peut pardonnez-moi d'être trivial, mais se bouffer le nez très, 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 très longtemps. Donc, les états généraux, c'est une bonne idée, parce que les états généraux, par définition, c'est pour aboutir à un corpus sur lequel on est d'accord de discuter. Mais c'est cette première démarche qu'il va falloir faire et non pas s'affronter sur la périphérie. Et
alors,
ça, c'est difficile.
Marlène Schiappa a annoncé, donc ça fait beaucoup jaser, dans le journal du dimanche, que la volonté de sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts. C'est vrai que on se dit que Marlène Schiappa, c'est pas forcément peut-être aussi la figure la plus apaisante pour un débat hyper délicat, non, Vincent Grégoire Delory?
Mais moi, je dirais que la force évocatrice du terme laïcité est extrêmement intéressante, extrêmement fort. Il faut quand même pas l'oublier. C'est un terme, le mot laïcos, qu'on retrouve chez Clément de Rome, donc au 1er siècle de notre ère, qui était plutôt un terme de la pensée chrétienne, qui va ensuite se développer de manière totalement différente, on le sait, après la Révolution, et au moment de la Révolution et après, jusqu'à ces lois de 1905. Et je pense que surtout, cette laïcité, qui n'a pas toujours été une laïcité d'inclusion telle qu'on voudrait la vivre actuellement, mais qui a été longtemps une laïcité d'exclusion, il suffit pour s'en rendre compte, un petit peu dans le monde chrétien et le monde particulièrement catholique, eh bien les traces que ça a laissées, je pense aux traces de 1905, 1904, 1905, 1906, avec l'expulsion des congrégations. Rappelez-vous ces chartreux que l'on vire de la Grande Chartreuse. Rappelons-nous du moment où on rentre dans les églises pour vérifier exactement quelles sont les richesses des églises. Je me souviens que quand j'étais enfant, il y avait encore des personnes âgées qui étaient traumatisées par ça. C'est-à-dire que c'était force évocatrice de la question de la laïcité. On doit déjà la penser. Je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est-à-dire penser le mot et déjà savoir ce qu'il revêt, parce qu'on parle souvent de laïcité à la française.
Mais c'est l'occasion, non?
Est-ce que c'est l'occasion? Je ne suis pas sûr, parce que regardez, les grandes étapes, quand j'ai eu un tel qu'elles sont données sur le site internet du gouvernement, on nous dit des groupes de travail sur des thèmes. Écoutez bien, la laïcité, la liberté d'expression, laïcité garante des droits des femmes, laïcité recherche, laïcité jeunesse, laïcité intégration citoyenne, laïcité au travail. N'en jetez plus, la coupe est pleine. J'ai l'impression qu'on le met un peu partout. Ça devient une sorte d'étendard. Il ne faudrait pas que la laïcité devienne une sorte de nouvelle religion. théologiser quasiment la laïcité. Et au nom de la, au nom de cette laïcité, tout est articulé. Droit des femmes, la recherche, il faut savoir ce que ça veut dire exactement. Mais d'abord, pensons à ce qu'elle est réellement, cette laïcité, et comment la penser entre nous. Je pense qu'il y a déjà des choses à faire sur le concept lui-même, me semble-t-il, avant de rentrer dans des thèmes généraux plus compliqués plus techniques.
Donc ça fait déjà presque deux boycotts. Alors il y a aussi 28 organisations qui ont annoncé qu'elles n'allaient pas participer à ces états généraux, associations et syndicats, et les cultes, enfin les représentants des cultes français ont déjà fait part de leur inquiétude d'aborder ce sujet en plein débat sur la loi sur le séparatisme, et font entendre leur voix. Marie-Christine Monnoyer.
Moi, je suis profondément d'accord avec ce qu'a dit Daniel Cabanis tout à l'heure. Je suis d'accord parce que je suis frappée par la méconnaissance assez générale de la fameuse loi de 1905. En préparant cette émission, je l'ai relue in extenso. Je l'ai relue in extenso parce qu'en fait, je ne la connaissais pas bien. Et quand j'ai entendu parler de l'article 35, de l'article 31 par exemple, je me suis dit, si on me demande ce que c'est, je ne sais pas bien. Alors j'ai tout relu. D'abord, j'ai été émerveillée par ce texte. Il est ciselé. Il est la preuve que les gens qui l'ont écrit avaient une connaissance de l'ensemble des problèmes de l'époque qui était extrêmement fine. Mmh. Et aujourd'hui, j'espère que les états généraux de la laïcité permettront de mieux faire connaître ce texte. Ce texte avec peut-être les quelques insuffisances qu'il a aujourd'hui, 105 ans ou 110 ans plus tard.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ce texte que vous avez reparcouru, c'est le fond de son esprit qu'on n'aurait pas en tête aujourd'hui.
Le fond de son esprit, c'est que si on appliquait strictement ce qu'il y a dans le texte, eh bien on n'aurait presque pas besoin d'en écrire une autre. Et on peut se dire qu'à certains moments, les pouvoirs publics ont péché par méconnaissance. On ne va pas revenir sur l'affreux attentat du professeur Guy assassiné, mais ce jour-là, en fait, on pouvait agir. C'est-à-dire que l'article 35 permettait immédiatement de mettre le fameux prêcheur, l'imam qui avait écrit des tas de choses, en prison. Mais enfin en prison, en arrêt immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, ce texte, il est si précis qu'on a déjà beaucoup d'éléments qui nous permettraient de regarder nos problèmes de vie communautaire et collective entre les différentes religions avec un regard beaucoup plus apaisé. On a des tas d'outils. Mais en fait, on ne le connaît pas. Et si les états généraux se font, eh bien, peut-être qu'on va un peu creuser et mieux comprendre. Arriverons-nous à définir la laïcité ? Je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, personne n'y arrive sur la planète. Chacun a sa définition dans aucun des pays.
Alors, en tout cas, certains, donc, je l'évoquais, donc je le précise un tout petit peu, lors de la conférence de lancement, certains se sont étonnés des voix extrêmement variées qui sont intervenues, entre autres Caroline Fourest, Henri Pénard-Ruiz, qui peut-être ne sont pas d'abord connus pour faire une explication de texte des principes de la laïcité à la française. Je voulais vous lancer sur autre chose. Ces états généraux doivent s'accompagner d'une consultation des jeunes, sur un site, mec.org, et la jeunesse n'a pas forcément la même vision de la laïcité que celle exprimée peut-être dans la loi de 1905. C'est un sondage sur lequel je suis tombé, je vais vous en donner juste les grandes lignes, sondage IFOP donc de mars dernier, qui laisse entendre que pour les jeunes, beaucoup plus que pour le reste de la population française, la laïcité, c'est avant tout mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Mais les jeunes, donc ça, sont plus nombreux que le reste de la population française, mais beaucoup moins, de faire reculer l'influence des religions dans notre société. Parfois, on a l'impression que les jeunes, par exemple, pour bien des jeunes, ça ne les gênerait pas qu'on vienne à l'école avec le voile, ou même qu'on ait le voile que les fonctionnaires aient le voile. Est-ce à dire qu'il y a quoi ? C'est une forme de relativisme, c'est une plus grande acceptation de la différence, c'est un peu une laïcité à l'anglo-saxonne. Qu'est-ce que vous diriez, Vincent Grégoire Delory ?
Je dirais que quand on discute avec des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, on se rend compte que leur angle d'approche est très différent certainement du nôtre. Je parlais tout à l'heure de la laïcité d'exclusion ou d'inclusion, où on a pu être plus ou moins marqués les uns les autres par ce combat entre Don Camillo et Pépone, d'une certaine façon, avec une sorte de laïcité qui se voulait peut-être anti quelque chose. Là, on a des jeunes générations qui arrivent qui ne sont pas autant catéchisées ni politisées que nous pouvions l'être autant jadis. Et nous avons donc des personnes qui vont regarder avec des yeux neufs ce sujet-là. C'est-à-dire que la question de la religion n'est pas du tout une question clivante. Ça va être une question qui est posée par ces jeunes générations.
Dépassionnés, vous diriez, ou...
Oui, assez dépassionné. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, là, je crois qu'il se passe quelque chose dans notre société. Je pense qu'on quitte progressivement ce côté vraiment clivant pour essayer de voir comment articuler justement cette question de la religion dans un monde qui est désormais est vraiment sécularisé et vraiment construit autour de cette question de la sécularisation et qui justement montre que, on va dire que ce sujet des religions est reperçu différemment. Quand vous parliez à l'instant, la question du voile,
c'est
des
pas,
signes
c'est
religieux.
C'est pas chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Je m'en fiche.
C'est parce pas que je m'en fiche. Alors, les étudiants avec qui je parle, c'est pas du tout je m'en fiche. C'est vraiment qu'est-ce que c'est qu'une religion, comment ça fonctionne. Alors, il y a aussi beaucoup de choses, de méconnaissances de la religion. Mais avec un intérêt, et justement, comment l'articuler avec ce qu'est un état comme le nôtre. Mais je pense que le regard est beaucoup moins clivant, je disais à l'instant. Ce mot laïcité est plus accueilli, comme vous le disiez à l'instant, regard sur toutes les religions plutôt que combat vis-à-vis des religions.
Alors, néanmoins, dans ce sondage, on peut trouver aussi 52% se disent défavorables au droit de critiquer les religions. Daniel Cabanis.
Oui, alors toute l'ambiguïté, c'est que c'est vrai qu'il y a une approche qui est peut-être moins passionnelle, parce que ça n'est plus un critère d'appartenance essentiel, mais pour beaucoup de jeunes, au contraire, l'affirmation de l'appartenance, ça devient une affirmation d'existence. Alors, tant que ça ne les concerne qu'eux et ceux qui pratiquent la même religion, ça mérite en tout cas discussion. C'est ce vers quoi tourne le communautarisme à l'anglo-américaine. En revanche, ça devient quand même sensiblement différent quand ces mêmes jeunes expliquent qu'il serait bon que la loi d'origine religieuse l'emporte sur la loi de la République.
Alors, je veux pas trop vous couper, mais je veux juste rajouter un dernier chiffre, parce que j'ai trouvé intéressant. 54% des lycéens musulmans estiment d'ailleurs, toujours sondage IFOP, que la laïcité est un concept dépassé. 32% des lycéens catholiques, 35% des lycéens sans appartenance religieuse.
Donc le problème est compliqué.
Le problème est compliqué. Voilà, ça ne concerne pas qu'une communauté, même s'il y a une prédominance.
Non, la chose que je dirais simplement, c'est qu'il me semble, à dire avec précaution, mais qu'actuellement, la majorité des religions, je dirais entre guillemets, classiques du monde chrétien, et c'est aussi vrai pour les bouddhistes, ça nous concerne un peu moins évidemment en Europe, mais n'a pas une volonté de domination sur les autres. Elle veut qu'on lui laisse à peu près son espace. Tandis qu'une partie... Je dis bien une partie des musulmans considèrent que dès lors qu'ils sont détenteurs de la vérité et qu'ils ont pour mission de convertir le monde, il est de leur devoir d'imposer à tous les normes qui sont les leurs. Or, là, c'est en contradiction totale, même avec les conceptions les plus minimalistes de la laïcité telle qu'on la conçoit chez nous.
Quel eût été le bon sujet, alors, Marie-Christine Monnoyer, à poser aux Français? Je dirais que la question est un peu vaste, mais si on a l'impression à vous entendre que c'était pas le bon moment et c'est pas comme ça qu'il fallait le prendre.
Ah non, moi je trouve que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment, que justement en pensant à l'idée des états généraux, on peut peut-être amener des personnes, parce que vous avez cité tout à l'heure Caroline Fourest par exemple, qui a des positions souvent extrêmement tranchées, et qui était présente avec d'autres complètement différents, à se poser la question de notre vivre ensemble avec des religions
différentes. Ça se fait en trois mois de se poser cette question?
Non, ça se fait pas en trois mois. Mais
avec juillet compris presque.
Mais tout à l'heure l'heure, Vincent disait bien que un des problèmes, c'est la méconnaissance des jeunes vis-à-vis de de l'ensemble de ces religions. Mmh. Moi, je suis très impressionnée par le fait que désormais, même dans les écoles catholiques, on arrête complètement d'enseigner quoi que ce soit sur la religion catholique et sur les autres à partir du moment où on est en fin de cinquième, en quatrième, ça s'arrête là.
Mais là, c'est pas, on parle des états généraux de la laïcité.
Mais oui, mais seulement.
C'est pas des états généraux de vulgarisation des grandes religions monothéistes.
Si vous n'avez pas de connaissances sur aucune des religions, eh bien, le concept de laïcité est extrêmement flou. Parce que pour parler de laïcité, il faut en fait avoir compris quelles sont les attentes de chacune des religions principales dans le pays et comprendre comment on va pouvoir vivre ensemble en acceptant que les règles de certains, par exemple que le droit des femmes, soit le même que l'on soit musulman en France ou catholique en France. Et ça, il faut forcément en parler. Et si on arrête de parler de tout ça à partir de 14 ans, c'est justement le moment où ça devient important.
Oui, parce que là, ils savent à quoi ça correspond, des petits de 11, 12 ans.
Oui, puis après, c'est ce qui manque. Après, ça même, on le voit dans les églises.
Ah, moi, je suis très impressionné par cette absence de connaissances.
Ça rappelle les conclusions d'une commission Debré qui incitait à un enseignement plus large des religions dans le cadre de l'éducation nationale. Et on va faire une deuxième pause et puis on va passer à vos sujets libres. Juste une dernière citation. Elle est importante, je pense, pour les auditeurs, parce que tout le monde n'est pas plongé dans la presse comme d'autres. François Claveroli, qui est donc actuellement donc, le président de la conférence des responsables du culte en France, donc plus largement que les protestants, même s'il en a été leur chef d'une certaine manière, ou leur représentant pendant un certain nombre d'années, dit que c'est un sujet extrêmement sérieux qui se joue là et qui a laissé entendre aux autorités qu'il faudrait prendre le temps. Allez, courte pause et on se retrouve.
Thank you.
Église. Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission d'actualité autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoignaient, Danielle Cabanis, elle est cette fois chroniqueuse politique et de Radio Présence le lundi matin, c'est bien ça Danielle, hein, le lundi matin dans la matinale. Marie-Christine Monoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines dans ce même institut. Alors vous m'avez suggéré des sujets qui vous tenaient à cœur, sur lesquels vous vouliez réagir. On va commencer avec vous, Marie-Christine Monoyer. Vous vouliez nous parler des entreprises françaises et de la question écologique. Comme j'en savais pas beaucoup plus, je me suis cherché un élément d'actualité, je vous laisserai réagir. L'ONG Notre Affaire, faisant probablement référence à l'affaire du siècle, voilà, un petit peu connue dans l'actualité, a publié le 2 mars dernier une étude portant donc sur les 25 plus grandes entreprises françaises, laissant entendre que en matière de transition écologique, il y avait plus qu'à revoir. Elles se sont plongées, on va dire, dans les comptes rendus que maintenant doivent fournir ces grandes entreprises, issues du devoir de vigilance, loi de mars 2007, et pour Reporter, puisque c'était sur Reporter que j'ai trouvé cet article, le compte n'y est pas. Marie-Christine Monoyer, était-ce votre angle ?
Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas encore suffisamment d'efforts ou qui n'ont pas une véritable stratégie, parce que c'est comme ça qu'il faut l'aborder, de stratégie sur la réflexion sur le climat.
Ou qui ne reconnaissent pas leur contribution au réchauffement climatique même.
Là, je crois qu'elles ne le reconnaissent pas.
Même Total ?
Mais bien sûr, même Total. Même Total, puisque Total a pris des décisions qui vont justement sur certains points dans le sens du climat. Entre le reconnaître Urbi et Orbi et le fait de se dire qu'il va falloir penser autrement, il y a déjà une marge. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'à côté de ces mauvais élèves, il y a d'excellents élèves. Et ces excellents élèves, ils ont un pouvoir sans doute d'explications sur les autres. Savez-vous que l'entreprise qui est au monde considérée par une structure un petit peu qui s'appelle les Corporate Knights, les chevaliers, etc., la plus écologique et la plus vertueuse sur le plan, eh ben c'est une entreprise française.
Et elle s'appelle ?
Elle s'appelle Schneider. Tout le monde connaît Schneider Electric, c'est une très grosse boîte. Eh bien, Schneider, qui a déjà fait des progrès considérables ces dernières années, a décidé cette année d'emmener avec elle l'ensemble de ses sous-traitants pour obtenir des résultats qui sont d'arriver à pratiquement simplement 25% de déchets carbone à 2030, c'est-à-dire une très très grosse amélioration. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a aussi, il y a des grandes, par exemple LVMH. Bon, je ne suis pas une fan d'LVMH pour des tas de raisons. Il n'empêche que...
Vous voulez dire qu'LVMH est bien classé, c'est ça ?
Mais très bien classé. Mmh. Il est très bien classé parce qu'il fait beaucoup de récupération, parce qu'il fait beaucoup de transformation. Et puis il y a plein de petites. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience. Et depuis la loi Pacte de l'année de 2019, cette prise de conscience s'élargit. Et on peut se dire que des progrès considérables sont faits. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à côté des efforts que font monsieur et madame Dupont, vous et moi, en matière de tri, etc., qui peuvent représenter jusqu'à 30% des résultats attendus en matière de diminution de CO2, eh bien, il y a les résultats de certaines grandes entreprises et de petites entreprises qui vont aussi dans le même sens. Maintenant, il y a le reste. Il y a le reste, et là, il faut de la politique.
Eh bien, c'est entendu, et puis c'était probablement important de le souligner, parce que c'est vrai qu'on l'entend moins ou le lit moins facilement que l'inverse. Vincent Grégoire Delory, dans un registre qui n'a rien à voir, vouliez parler de la maltraitance animale, dont on parle de plus en plus dans l'actualité. L'élément d'actualité, ils font vite l'actualité, la fameuse association L214, qui récemment, en ce moment, mène une campagne contre l'élevage intensif de poules sur sol, si je ne me trompe pas, et qui se retrouvent parfois dans des hangars gigantesques, à dizaines de milliers de volailles entassées, sans accès à l'extérieur ni lumière naturelle, dit cette association, et y mène entre autres la fronde contre un élevage en ce moment dans les Côtes d'Armor. Pourquoi vous voulez sortir ce sujet du chapeau des news ?
Je voulais parler un petit peu de ça, ou en tout cas interroger ça, ces informations-là. Parce que d'une part, on en parle beaucoup. C'est vrai que cette question des vidéos de L214 font souvent le tour des réseaux sociaux. Et il paraît évident à tout le monde que maltraiter les animaux, c'est pas une question. On ne maltraite pas les animaux, on pourrait se dire que ça s'arrête là. C'est pas bien de maltraiter les animaux. Point. Néanmoins, il me semble que ce qui me semble vraiment intéressant actuellement, c'est de voir que le rapport que nous entretenons, la relation que les humains entretiennent avec les animaux, tend, me semble-t-il, à évoluer. Qui sont-ils, ces fameux animaux? Qui sont-ils? Ça paraît évident. Ils ne sont pas nous. Bien que, on ne sait pas trop vraiment totalement y répondre. Des études font le cas de certaines. Du concept de proto-morale, par exemple, chez certains singes. Qui sont les animaux? Qui sommes-nous? Et ce qui m'intéresse, c'est que dès lors que l'on parle des animaux, dès lors qu'on en parle, ne fût-ce que pour les sauver, ne fût-ce que pour les aider, ne fût-ce que pour faire en sorte qu'ils ne souffrent pas, eh bien finalement on parle de nous. Que disons-nous de nous, les humains? Nous qui sommes des mammifères supérieurs, mais que disons-nous de nous? Et je pense que cette question de
en
la
maltraitance... En L214 finit par parfois mal parler des humains,
c'est exactement
plus mal parler
ça.
Des humains que des animaux.
C'est
si
exactement ça, puisqu'il y a un double effet qui se passe, me semble-t-il, dans notre société actuellement. Deux effets qui se croisent, mais qui ne sont pas symétriques. D'un côté, il y a finalement l'humanisation progressive des animaux, que l'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits. Sont-ils comme nous, finalement? On va l'entendre. Sont-ils comme nous? Et donc là, cette espèce de protection qu'on va avoir comme s'il y avait, comme on pourrait penser, une dignité animale, humaine et animale. D'un autre côté, une animalisation de l'humain.
Le prédateur devient l'homme. C'est...
Et c'est-à-dire que finalement, la frontière devient trouble. Et quand tout à l'heure, nous parlions des étudiants, beaucoup d'étudiants me posent la question, finalement, c'est quoi la frontière? Où est la frontière? Qu'elle soit physiologique, biologique, qu'elle soit philosophique, pardon. Et là, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant de voir que notre société, on trouble beaucoup de repères actuellement. On le voit bien. Il y a une question de trouble qui se met en place. Et qui es-tu, ô animal, finalement?
Qu'est-ce que vous diriez de la souffrance animale? Parce que c'est souvent l'expression utilisée par L214, mais elle est quand même sujette à interrogation. Par exemple, il y a une autre campagne en ce moment, c'était à l'occasion de la journée mondiale pour la fin de la pêche, qui était récemment, je n'avais pas entendu parler. C'était, semble-t-il, en mars dernier. Et cette citation que j'ai trouvée de L214, « Dès lors que l'on est sensible au bien-être animal, il n'y a pas davantage d'éthique dans le fait de pêcher un poisson que des milliers en même temps. Dans les deux cas, l'animal souffre. »
Alors,
le poisson souffre.
La question de la souffrance est une question qui est assez difficile, finalement. Parce que finalement, un animal à mal, nous en tant qu'animaux, nous avons mal. Personnellement, j'ai déjà mal avant de y être quand je pense que je vais chez le dentiste. Donc effectivement, on peut avoir des douleurs, mais la souffrance, c'est la conscience de la douleur. Tous les quatre autour de cette table, nous n'allons pas avoir le même taux de souffrance avec les mêmes douleurs. Les humains qui avons une souffrance réflexive, je sais que j'ai mal et j'associe à cette douleur une idée, une peur, une finalité ou une fin. Je vais mourir. Je vais perdre quelqu'un, que sais-je encore, avec l'empathie aussi, de voir souffrir autrui. Donc je pense que cette réflexion, la souffrance pour l'humain a quelque chose de beaucoup plus profond, et je parlerai plutôt de douleur animale. Mais douleur animale qu'il ne faut évidemment pas négliger.
Eh bien, on en reparlera parce que certainement qu'on aura bien des occasions. Troisième sujet, assez éclectique. Donc, Daniel Cabalis, vous vouliez nous parler vaccin. Mon élément d'actualité, c'est le comité d'urgence de l'OMS qui se prononce contre le passeport vaccinal. C'était récemment, le 19 avril dernier, laissant entendre que ça n'était pas une bonne idée. Je retrouverai plus de détails sur la citation. Sur quoi vous vouliez nous alerter?
Alerter, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais je voulais souligner une certaine forme d'incohérence. On a lancé, et je le dis sans réserve avec raison, partout de fortes campagnes en faveur de la vaccination. Entre lancer la campagne et vacciner, on a vu que ce n'était pas toujours aussi harmonieux qu'on pourrait en rêver, mais enfin, finalement, partout, on vaccine. En expliquant, pour aussi convaincre les récalcitrants, les hésitants, que le fait d'être vacciné protégeait évidemment le ou la vaccinée, mais était aussi une protection globale pour la société, parce que le virus, à terme, circulerait moins et qu'on pourrait le vaincre.
Parce que on en a parlé avant l'émission, mais quand on est vacciné aussi, on transmettrait moins le virus.
Voilà, il semblerait, je dis ça avec précaution, parce que je n'ai aucune compétence en la matière, je fais le perroquet, qu'on transmettrait moins le virus. Donc ça a fait naître beaucoup d'espoir et les publicités gouvernementales, pas seulement en France d'ailleurs, étaient porteuses d'illusions. Celle moi, qui m'a le plus frappée, c'est peut-être mon âge et ma situation de grand-mère hein, qui m'y a fait penser, c'est cette dame assez âgée qui est sur son canapé toute seule et que je entends un petit bruit, ce sont ses deux petits-enfants qui arrivent suivis par leurs parents, ils se jettent dans les bras les uns des autres, grande retrouvaille, etc. Et après, on se rend compte que ce n'est pas du tout la réalité. C'est juste le rêve de cette dame âgée au moment où elle se fait vacciner et juste au moment où l'infirmière lui demande « Ça va madame, vous n'avez pas trop mal ?»
Alors votre inquiétude, quelle est-elle, Daniel Cabanis ?
Mon inquiétude, c'est le ras-le-bol, parce que beaucoup de gens se font vacciner, on continue à leur dire de pratiquer les gestes barrières, ce qui est très vraisemblablement raisonnable et je me garderai de m'insurger là contre, mais en même temps, les interdictions ne tombent pas.
Lesquelles, par exemple ?
Eh bien, pour l'instant, les salles de spectacle ne sont pas ouvertes. Si elles ouvrent, la jauge restera assez modeste.
Mais votre seule inquiétude ou coup de gueule, c'est de ne pas pouvoir retourner au spectacle ou...
Eh bien, oui, entre autres.
Ah, bah dites-moi.
Mes petits-enfants...
Pensez que vous allez nous parler de la France, non ?
Mes petits-enfants, je les vois puisque nous vivons dans la même maison tous ensemble.
Non, mais sans rire, Daniel Cabanis, en dehors des salles de spectacle.
Je ne suis pas aussi sotte que ça, du moins j'espère. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça risque de susciter une rébellion parce que tous ceux qui auront fait des efforts seront traités comme tous ceux qui n'en ont pas fait, que ce soit dans les entreprises, en contact ou non avec le public, ça reste d'une extraordinaire lourdeur. Donc ça fait un peu naître le sentiment que ce n'est pas juste, qu'on cause, mais que les choses ne changent rien et que le pouvoir aime nous garder sous sa coupe, sous sa coupole.
Puisqu'il nous reste 2 minutes, qu'est-ce que vous préconiseriez dans ces cas-là?
Ben ça tombe mal puisque...
Une fois vacciné, on arrêterait de mettre le masque et on arrêterait les gestes barrières.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que le maintien des gestes barrières a priori restait utile, en tout cas dans les circonstances publiques. En tout cas, pour le moment, je vois mal qu'on y échappe. Je me garderais bien de le demander. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que la récente décision de l'OMS... m'a frappé de manière très très négative parce que si on mettait en place un passeport vaccinal ou quelque chose comme ça, ce serait rassurant d'une part pour tous ceux qui auraient affaire avec des passeportisés. À eux, ça leur permettrait de faire des choses en plus et de relancer plus naturellement l'activité. Alors que là, on a l'impression que rien ne bouge.
L'OMS qui argumentait, donc les États sont vivement encouragés à reconnaître que l'exigence d'une preuve de vaccination peut aggraver les inégalités et favoriser une liberté de circulation différenciée. Bref, c'est l'histoire des citoyens de seconde zone qui planeraient derrière cette interrogation. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été fidèle au rendez-vous. Affaire à suivre pour peut-être ces 3 sujets. On aura l'occasion de les redévelopper et surtout donc cette conférence sur l'avenir de l'Europe dont on a essayé de faire la promotion. Une plateforme existe donc déjà depuis le 19 avril dernier. Facile à trouver, il suffit de taper plateforme conférence sur l'avenir de l'Europe sur Internet et le lancement c'est le 9 mai prochain. Un grand merci à vous. À la technique, Yannick Galupini, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.